Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
Clôture hier à Kinshasa de la 10e session de la commission spéciale mixte défense et sécurité RDC Congo-Brazzaville. Il était question de consolider la coopération bilatérale, notamment en matière de sécurité. L'essentiel des résolutions porte sur des questions d'intérêt commun, à en croire le communiqué conjoint. Un New Deal pour une RDC et une Afrique forte et prospère, des actions concrètes pour transformer le continent, c'est le thème de la 10e édition du Forum international des affaires Makutano, ouvert hier à Kinshasa. Plus de 1000 leaders prennent part à ces assises. Et puis, journée mondiale de lutte contre le diabète, c'est aujourd'hui 14 novembre. Thème de cette année, diabète et bien-être. Pour en parler, nous recevons Dr Nixon Poka, responsable de la recherche au sein du Programme national de lutte contre le diabète. Madame, Messieurs, bonjour. Consolider la coopération bilatérale, notamment en matière de sécurité, pour une coexistence pacifique entre les populations de la RDC et du Congo-Brazzaville, c'est l'un des objectifs de la 10e session de la commission spéciale mixte défense et sécurité entre la RDC et la République du Congo. Travaux clôturés hier à Kinshasa. Il était aussi question au cours de ces assises de 3 jours d'évaluer les recommandations de la 9e session tenue l'année dernière à Ngabé au Congo-Brazzaville, à en croire le communiqué conjoint signé par le vice-premier ministre de la RDC en charge de l'intérieur et son homologue du Congo-Brazzaville. L'essentiel des résolutions porte sur des questions d'intérêt commun. Grâce à Mzati.
Selon le ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville, son pays n'a jamais servi et ne servira jamais de base arrière à toute initiative visant à déstabiliser les pays voisins, surtout par la RDC. Il appelle aux actions concrètes pour le bien-être des populations des deux pays. Zéphirin Boulot.
Le gouvernement de la République du Congo fera œuvre utile avec celui de la République démocratique du Congo afin de trouver des solutions à nos préoccupations, solutions qui soient à la hauteur de nos attentes.
Pour sa part, son homologue de la RDC, Jacquemain Chabani, affirme que ses travaux constituent un témoignage des relations d'amitié et de fraternité qui caractérisent ces deux États dont les peuples partagent une même culture, une même histoire et des liens solides.
Je demande à la commission technique mixte de parachever l'accord cadre en matière de coopération transfrontalière en vue de juguler les litiges frontaliers et de nouer la coexistence pacifique entre nos populations riveraines. Des conclusions positives auxquelles nous sommes parvenus. L'essentiel à mes yeux paraît être l'affirmation solennelle et réitérée de la ferme volonté de nos deux chefs d'État de bien vouloir consolider la défense et la sécurité.
Les experts des deux pays sont appelés à suivre scrupuleusement la mise en application des recommandations.
La République démocratique du Congo n'a produit jusque-là qu'un seul rapport depuis l'adoption du protocole de Maputo signé en 2003 sur les multiples cas de violation des droits de l'homme dans l'est du pays. C'est ce qui ressort d'un atelier de renforcement des États francophones sur les droits humains, atelier tenu la semaine dernière à Abidjan en Côte d'Ivoire. Selon la conseillère du gouverneur de l'Ituri qui a pris part à ces assises, le but de ces assises est de sensibiliser les chefs d'État africains sur le contenu de la charte africaine, mais aussi encourager les États membres à établir des rapports sur les atteintes des droits humains commises notamment dans l'est de la RDC. Jeanne Alacha est au micro d'Ezekiel Mousalia.
Quand un pays ratifie les protocoles, doit faire des rapports. Dans 20 ans, on a fait seulement un seul rapport. Donc nous, on était parmi les pays qu'il fallait quand même attirer pour leur rappeler leurs devoirs.
Et qu'est-ce qui fait à ce que la RDC ne produise pas assez de rapports au regard de tout ce que les peuples congolais connaissent jusqu'à présent?
Bon, je crois que le problème des rapports, c'est question aussi d'organisation. Peut-être qu'au niveau de chaque ministère, il y a du retard. Mais ce qui est sûr, la RDC est en train de préparer son deuxième rapport. Et que les femmes en Ituri sont dans les négociations, dans la prévention des conflits et dans tout ce qui est relèvement communautaire. Alors, qu'est-ce que les femmes de l'Ituri peuvent attendre? Les femmes d'Ituri ne peuvent pas attendre que ça vienne de la Côte d'Ivoire. L'Afrique a besoin d'unité, de solidarité. L'Ituri peut être défendue aussi par d'autres pays africains. Parce que les autres pays africains ne sont pas d'accord de ce qui se passe en RDC. Ils sont touchés et ils veulent que ça cesse.
Dans l'actualité aussi, la première ministre de la RDC appelle à une action collective face à l'urgence climatique. D'après elle, la Terre fait face à une urgence climatique sans précédent, ce qui nécessite une action collective qui repose sur des principes de justice, d'équité et de solidarité. Judith Soumino s'est ainsi exprimée hier à la 29e conférence des parties à la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques, COP29, qui se tient à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan. Grâce à Mzati pour les détails.
Dans son allocution devant les chefs d'État et plusieurs dignitaires mondiaux, la chef du gouvernement congolais appelle à une action collective pour freiner les effets néfastes du changement climatique. Nous sommes réunis ici à Bakou, à la COP29, à un moment où notre planète fait face à une urgence climatique sans précédent. Nous constatons tous que le changement climatique s'accélère, compromettant nos projections et notre capacité d'adaptation, déclare Judith Souminois. Selon elle, la clé réside dans l'action collective qui doit être ambitieuse et reposer sur les principes de justice, d'équité et de solidarité. La première ministre alerte sur le fait que les effets néfastes du changement climatique n'épargnent pas la République démocratique du Congo malgré ses vastes étendues de forêts. En effet, tandis que la RDC a le profil des pays solutions, au regard de ses vastes étendues de forêts, de sa riche biodiversité, de ses réserves en eau douce, de ses gigantesques zones de tourbières, de ces immenses terres arables et de ces nombreux métaux critiques pour le développement des technologies de pointe à l'ère de la transition énergétique, elle reste extrêmement vulnérable aux effets néfastes du changement climatique, rappelle-t-elle.
Je vous le disais en titre, la 10e édition du Forum international des affaires Makutano a ouvert ses portes hier à Kinshasa sous le thème « Un New Deal pour une RDC et une Afrique forte et prospère, des actions concrètes pour transformer le continent ». Chefs d'État, dirigeants du secteur privé, décideurs publics africains et internationaux participent à ce grand rendez-vous. Il seront plus de 1000 leaders à prendre part à ces assises. Il est prévu des conférences sectorielles autour de 7 thèmes majeurs tels que les infrastructures, l'énergie, l'agro-industrie ou les finances. Je vous propose d'écouter Michel Osembe, membre de ce réseau. Il s'exprime sur le sens du thème retenu pour cette année. Il est au micro de Jean-Marc Matouaki.
Nous sommes à la croisée des chemins. Vous savez, le monde évolue à une vitesse exponentielle. Nous avons l'impression que quelque part, bien que les choses évoluent chez nous aussi, ça va pas assez vite. Et on doit faire un espèce de sursaut. Et ce sursaut, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience, c'est ce que nous appelons le New Deal, qui a pour ambition de réunir autour de la table des leaders les plus influents de la RDC, mais de l'Afrique aussi. Cette ambition a pour thématique de se concentrer autour des modèles économiques, sociaux. La culture doit être en adéquation avec les valeurs africaines. Donc il y a une recherche d'identité qui fait que ce nouveau contrat, ce New Deal, doit pouvoir émerger quelque chose qui permette à l'Afrique et à la RDC de rester sur la ligne du temps.
Et puis, la société Primera Gold est désormais dénommée DRC Gold Trading SA. La cérémonie de signature des actes marquant le changement de la dénomination sociale de cette société a été présidée hier par le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa. DRC Gold Trading SA a désormais pour actionnaire l'État congolais qui détient 55% des parts sociales, le fonds minier pour les générations futures ayant 30% et 15% pour la GECAMINE. Suivant les explications du directeur général de cette entreprise qui a pour mission la collecte de l'or produit de manière artisanale sur toute l'étendue du pays, Joseph Kazibaziba, dans cet extrait proposé par Alain Irung Mouchinj.
Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale de cette société que j'appelle toujours le dernier né de l'État, avec l'ouverture de l'actionnariat aux structures de l'État, encore une fois. Une société qui en vaut maintenant plus de 50 millions de dollars, je crois que c'est un si très bon exemple qui devrait, n'est-ce pas, caractériser et rassurer tout le monde qu'avec les Congo et les Congolais, nous pouvons beaucoup faire et peut-être faire mieux que beaucoup de partenariats des JV que nous signons en dehors du pays. C'est vrai que le défi reste énorme, celui de ramener dans le circuit officiel toute la quantité d'or extrait de manière artisanale. Et si nous devrions des chiffres, plus de 50 tonnes qui sont extraites, exportées de manière fraudulée sur la côte est du Congo, et cela équivaut de plus de 5 milliards de dollars. Vous pouvez comprendre pourquoi c'est une société stratégique et si importante pour l'État.
À présent, nous vous proposons la troisième livraison de notre série de reportages sur l'analyse du budget 2025. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le budget de la défense, la justice et de la sécurité publique. Estimé à 13,12% du budget global 2025, cette enveloppe est destinée à l'armée, à la police, aux cours des tribunaux et aux centres pénitentiaires. Michel Kifindangoy nous en parle.
L'analyse du document 6 sur les prévisions des dépenses du budget 2025 renseigne que 7,43% du budget sont destinés à la défense nationale. De ce montant, la défense militaire prend à elle seule près de 6%. Les autres affaires concernant la défense ainsi que la recherche et le développement concernant la défense prennent moins de 2%. Quant au budget destiné à l'ordre et la sécurité publique, le service de la police prend 1,57% et 1,33% pour la protection civile. Les tribunaux consomment 1,43% du budget et 0,34% pour l'administration du système judiciaire et pénitentiaire. La recherche et développement concernant l'ordre public et sécurité bénéficient de 0,78% du budget et 0,28% seulement pour les autres affaires concernant l'ordre et la sécurité publique.
Santé. Il est possible de vivre paisiblement avec son diabète de nombreuses années, mais pour cela, il faut respecter son traitement et ses rendez-vous médicaux, ce qui est assez difficile pour de nombreuses personnes obligées de supporter seules avec leur famille le poids de cette maladie. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le diabète ce 14 novembre, le Programme national de lutte contre le diabète lance un appel pour une subvention dans la prise en charge de cette maladie. Au micro de Babel Mpongo Masimango, le docteur Nixon Poka, responsable de la recherche au sein du Programme national de lutte contre le diabète, explique le thème retenu cette année, soit diabète et bien-être. Il nous dit aussi comment prévenir le diabète du type 2, la forme la plus courante de la maladie en RDC. On l'écoute.
Tout le monde disait avoir le diabète, c'est mourir le lendemain. Alors qu'aujourd'hui, on peut vivre avec son diabète et durer le plus longtemps si on respecte les traitements et on prend correctement en charge son corps. Si on ne suit pas les traitements, on peut développer les complications qui peuvent amener à la détérioration de la qualité de vie. C'est le diabète de type 2 qu'on peut facilement éviter. Parce que le type 1, beaucoup de facteurs entrent en jeu. Et dans le type 2, il y a principalement deux facteurs. Il y a les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux sur lesquels on peut jouer, avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation équilibrée et variée. Et essayer de bouger, c'est alors qu'on va lutter contre ces facteurs environnementaux et éviter de développer le diabète. Le programme ne reçoit pas de subventions, n'a pas d'appui financier. Les malades sont censés se prendre en charge seuls. Nous profitons pour lancer un appel à l'État congolais d'aider le programme à subvenir aux besoins en termes de prise en charge de ces patients. Parce que les malades diabétiques sont censés prendre le médicament tous les jours, c'est faire contrôler la glycémie et surtout faire les examens. Ça demande de l'argent.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, au moins 900 maisons de tolérance ont été identifiées dans la ville de Butembo et la commune rurale de Lubero Centre. Ces chiffres proviennent d'un rapport de l'Organisation de défense des droits humains, point important de l'agriculture, basée à Butembo, suite à un travail de suivi rigoureux. L'organisation dénonce l'exploitation des filles mineures dans ces lieux. Martial Papi Mukeba, reportage.
Les coordonnateurs de l'ONG Point Important de l'Agriculture qualifient cette situation de grave. Tsongo Silutondoa explique.
Nous avons constaté qu'à ville de Butembo, qu'il y a 800 maisons de tolérance et 180 à Lubero Centre. La majorité sont des filles mineures qui travaillent dans toutes ces maisons de tolérance et plus grave encore, sont utilisées pour l'intérêt des responsables de ces maisons de tolérance.
Le colonel Alekiwewa, administrateur du territoire de Lubero, annonce des mesures immédiates pour fermer ces établissements.
À cause de cet afflux de déplacés, certaines familles qui dépourvues de tout, des fois ils commencent à utiliser leurs enfants, surtout les jeunes filles, dans certaines maisons de tolérance. Nous avons déjà envoyé nos services pour de fermer, de sceller toutes ces maisons-là. Donc c'est un problème que nous connaissons et nous sommes derrière ça.
L'exploitation des mineurs à des fins sexuelles est strictement interdite dite par la loi congolaise. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Réorganisation des élections législatives nationales et provinciales le 15 décembre 2024 à Massimanimba dans le Kwilu et à Yakoma dans le Nord Ubangi. L'administration territoriale de Massimanimba affirme que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour éviter les irrégularités qui ont conduit à l'annulation des échéances du 20 décembre 2023. Des réunions de sécurité se multiplient et les équipes travaillent d'arrache-pied pour avoir des élections paisibles et transparentes. L'administrateur de Massimanimba invite toutes les parties prenantes à adhérer au processus.
Actualité internationale.
La Russie continue d'étendre son influence en Afrique en déployant des forces militaires en Guinée équatoriale. Jusqu'à 200 soldats auraient été envoyés dans ce pays d'Afrique centrale. Leur mission, former les gardes élites à Malabo, la capitale, et à Bata, le principal centre économique, et aussi protéger le président Teodoro Obiang au pouvoir depuis 1979.
L'invité.
Le 14 novembre, c'est aujourd'hui et c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. Elle est commémorée cette année autour du thème « Diabète et bien-être ». La situation du diabète en RDC et les défis à relever pour une bonne prise en charge des malades, c'est dans cet entretien de Babel Mpongo Masimango avec le docteur Nixon Poka, responsable de la recherche au sein du programme national de lutte contre le diabète.
Docteur Nixon Poka, bonjour.
Bonjour.
Quelle est aujourd'hui la situation du diabète en termes de chiffres en République démocratique du Congo?
Il se pose quelques petits soucis parce que jusqu'à là, aucune étude de prévalence du niveau national n'a été menée. Les études qui ont été menées par le passé, que nous appelons d'habitude les études parcellaires, nous amènent à une prévalence autour de 7 à 14%, particulièrement pour le diabète de type D. Il y a des pourparlers qui se font au niveau de l'INSP, Institut National de Santé Publique, en collaboration avec la Direction de Surveillance Épidémiologique, où une étude STEP doit être menée incessamment. C'est à l'issue de cette étude qu'on aura une prévalence nationale du diabète sucré.
Alors, l'un des combats dans la prise en charge du diabète, c'est d'abord le dépistage. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des efforts qui sont fournis?
Exactement, il y a des efforts. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, par l'entremise du ministre Gamba Roger, venait de doter le programme national d'un lot de kits de dépistage. Les kits seront distribués au niveau des différentes structures du pays pour le dépistage. Et on compte les faire en marge de la journée mondiale. Le directeur va lancer les go.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la population est suffisamment sensibilisée sur le diabète?
Parlant de la sensibilisation, je dirais toute la population non. Mais est-il que, à travers les formations que nous organisons, à l'intention des médecins et infirmiers, nous leur demandons de sensibiliser leur communauté, et s'il faut leur accorder cette marge de compréhension ou encore d'acceptation, on peut dire que la population est sensibilisée, mais surtout, c'est un travail qui relève du programme, et au niveau du programme, on n'a pas vraiment une activité comme ça, allant dans le sens des sensibilisations de la communauté. Mais on compte les faire déjà dès ces mois, et comme c'est le mois du diabète, ça sera un mois consacré à la sensibilisation sur le diabète sucré.
Quels sont les moyens actuels dont dispose le programme pour la prise en charge et le suivi des malades? Parce que la prise en charge, il faut dire que c'est à notre niveau ici, c'est un poids pour les familles. C'est pas comme la tuberculose où, par exemple, les médicaments sont gratuits.
Parlant de la prise en charge, je vais le présenter en deux volets. Le premier volet, c'est le volet formation du personnel. Parce que parlant de la prise en charge, il y a les côtés prestataires. Et par rapport à cela, le programme est en train de former les prestataires qui travaillent dans la prise en charge du diabète. Et cette formation est issue du guide thérapeutique du niveau national que le programme venait d'élaborer. Alors, le deuxième volet, c'est le volet des soins. Alors, pour ça, le programme ne reçoit pas de subventions, le programme n'a pas d'appui financier et les malades sont censés se prendre en charge seuls. Alors là, c'est vraiment un problème et nous profitons même de ces micros pour lancer un appel à nos autorités, c'est-à-dire l'État congolais qui est notre partenaire privilégié et traditionnel, de pouvoir aider les programmes à subvenir aux besoins en termes de prise en charge de ces patients diabétiques. Parce que les malades diabétiques sont censés prendre le médicament tous les jours, se faire contrôler la glycémie presque tous les jours et surtout faire les examens, les bilans. Ça demande de l'argent et
c'est un poids pour les familles.
Exactement.
Oui. Alors, cette année, le thème choisi, c'est diabète et bien-être. Pourquoi ce thème?
Déjà, le diabète, depuis plusieurs années, est un mythe. Et tout le monde disait avoir le diabète, c'est mourir le lendemain. Alors qu'aujourd'hui, on peut vivre avec son diabète. Et d'ailleurs, les concepts utilisés actuellement, c'est pas un diabétique, mais plutôt une personne vivant avec le diabète. Donc, on peut vivre avec son diabète et durer le plus longtemps si on respecte les traitements et on prend correctement en charge son corps. Alors, diabète et bien-être, pourquoi ? Parce que le diabète est un tueur silencieux. Donc, c'est une maladie évolutive. Et si on ne suit pas les traitements, on peut développer les complications. Les complications peuvent amener à la détérioration de la qualité de vie. Donc, un diabétique qui respecte son traitement et qui se contrôle peut vivre le plus longtemps possible sous ces forts soleils.
Il y a une série d'activités qui est prévue.
Pour les 14, une matinée scientifique à l'INPES. À l'occasion de cette matinée, le directeur va lancer une série de campagnes de sensibilisation et de dépistage au niveau de la ville-province de Kinshasa. Le lundi 18 novembre, dans des structures dont Maman Moussal ici, à Mongafula, puis l'hôpital général des références de Matete. Et le jeudi 21 novembre, au niveau des centres de santé Marguerite, à Kigoma, vers Barumbu, et les centres de santé Siloé, sur Kimbondo 22, commune de Bumbu.
Merci, Dr. Nixon Poka.
Merci beaucoup, Madame Mabel Pongo.
Le responsable de la recherche au sein du programme national de lutte contre le diabète répondait aux questions de Babel Mpongo Massimango. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.